Premièrement, on remarque une transformation profonde dans l'Europe de l'Est et ailleurs. Transformation sur le plan politique due aux énormes suites, aux énormes difficultés économiques rencontrées par ces pays d'une part et par une sorte de soulèvement populaire d'autre part. Jamais la volonté populaire ne s'est plus fortement manifestée au cours de ces 5 dernières années. Ces manifestations d'indépendance affectent également les pays asiatiques et un certain nombre de pays sud-américains. Est-ce que ces manifestations ne sont pas le prélude à des changements beaucoup plus importants, affectant la manière d'exister des peuples de la Terre dans son ensemble? Et comment pouvons-nous envisager l'avenir des nations et le développement de la conscience de l'interdépendance de tous les peuples de la Terre?
Je vous salue et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau dialogue. Il se trouve que la question qui m'est posée touche à l'organisation concrète de la Terre, l'organisation politique et son développement. Bien que la question n'ait pas une réelle résonance avec les intérêts premiers de la salle, j'essaierai tout de moins de faire quelques petites analogies avec la question tout en répondant en fait à ce qu'est l'homme ou qu'est-ce que peut être l'organisation politique à l'intérieur de l'homme. Politique avec un grand P, lorsque l'on regarde que le président ou le chef de la nation de l'homme n'est pas un homme ou son égo inférieur, mais bien son âme ou sa monade, et plus loin même Dieu. Donc c'est en essayant de découvrir comment l'homme lui-même est organisé que nous arriverons à découvrir ou à expliquer comment la Terre, vécue comme un seul et grand être, elle-même est organisée. Car il n'y a pas de petites organisations parallèles, parallèle à la grande organisation que l'on pourrait appeler le plan de Dieu ou le plan des maîtres ou le plan de la hiérarchie. La question était fort longue et j'organiserai mon discours autour de ce qui est d'abord dans votre esprit, dans votre propre quête et ensuite autour de ce que la question révèle. Donc je vais dans un premier temps parler de l'organisation de l'homme. Ce qui en vient à se poser la première question, qui est l'homme? Si l'homme est un être organisé, que l'on étudie pour se faire et pour le comprendre, son corps physique ou son corps psychologique ou son corps émotionnel ou tout simplement ses corps occultes comme la somme d'un seul corps, si donc l'homme est un être organisé, c'est bien qu'il est la somme de plusieurs énergies. Et l'être planétaire, ou l'être qui s'exprime à travers l'humanité, est lui aussi la somme de plusieurs énergies. Ces énergies ne sont pas multiples par imitation de ce qu'est le petit homme, mais ces énergies dans le grand être de l'humanité sont multiples parce que les nations et les familles d'âmes qui composent le grand être elles-mêmes sont multiples. On parle de 7 famille majeure dans l'univers, ou de 7 Kumara aussi, l'on dit. 7 famille d'âmes, 7 notes clés pour le chant de l'âme. On parle aussi des 7 rayons pour ceux qui sont habitués avec ce langage. Cela veut dire que pour constituer un entier, du point de vue de l'alchimie cosmique, il faudra que tout soit créé de façon septénaire. Et ainsi, lorsque l'on essaye d'analyser le monde, lorsque l'on essaye de comprendre que ce soit la politique, la science, les institutions, la religion, ou même quelquefois aussi le type de science ésotérique qui anime une civilisation à un moment donné, eh bien on s'aperçoit que chacune de ces institutions est elle-même constituée de cette énergie. Ce qui veut dire que, à l'intérieur de quelque chose d'unique, il y a 7 plans. Et qu'à l'intérieur de ces 7 plans, chaque fragment de ces 7 plans, chaque fragment contient aussi 7 subdivisions. Et ainsi, à l'infini, jusqu'à ce que l'on trouve, dans l'infiniment petit, quelque chose qui ressemble à l'atome. Et si l'on remonte pour retrouver une sorte d'origine, on retrouve aussi cette façon septénaire de se répartir, mais chaque fois, les paramètres sont de plus en plus grands. Ce qui veut dire que l'unité telle que l'homme la conçoit, cette unité n'existe pas. Ce qui ne veut pas dire que l'unité est une rêverie ou une illusion. Je dis tout simplement que dans la mesure où tout ce qui est manifesté, dans la mesure où tout ce qui est en mouvement dans l'univers s'exprime par une trinité qui devient ensuite un septénaire, pour découvrir l'unité, il faudra aller autre part que dans le manifesté. Dans le manifesté, il n'existe aucune unité. Nulle part on ne pourra trouver l'aspect 1. L'aspect 1 du Père, l'aspect 1 du Christ, l'aspect 1 de la Vierge cosmique. Cela n'existe pas. Cependant, on ne peut pas renier l'existence de l'unité. Et si cette unité existe, il faudra donc la chercher ailleurs que dans le manifesté, ailleurs que dans le mouvement des mondes et le mouvement de l'être. Et c'est ce que vous appelez la spiritualité. Quand vous cherchez ce point d'unité, c'est là que vous commencez un mouvement spirituel. Chaque fois que vous êtes à la quête de ce point d'unité, même sans le savoir, vous démarrez votre vie spirituelle. La recherche de l'unité, la recherche de ce point suspendu que rien ne peut toucher, où aucun mouvement n'a lieu, où aucune division n'a lieu, la recherche de ce point, c'est ce que l'homme appelle la spiritualité. C'est pourquoi, lorsque l'on comprend que l'on est à la recherche de ce point suspendu, indivisible, il est tout à fait facile de conclure que l'on ne pourra pas trouver cette unité dans les différents mouvements de la spiritualité qui sont des aspects divisés. Je veux dire en ce sens que si l'homme pense trouver cette unité en étant à l'intérieur d'une religion, comme si la religion allait pouvoir le porter vers l'unité, il ne trouvera rien. Si l'homme pense qu'à l'intérieur du rituel, il va rencontrer l'unité et que le rituel va l'y porter, il ne trouvera rien. S'il pense se mettre à l'intérieur de la prière pour que la prière le porte vers l'unité, il ne trouvera rien non plus. Tout simplement parce que tous ces mouvements-là, même si ce sont des mouvements spirituels, tous ces mouvements appartiennent à la division du cosmos. Ils appartiennent au mouvement du cosmos, donc ils sont capables d'attirer une énergie, mais pas d'attirer l'esprit. Ils sont capables de faire descendre des divinités, des entités, d'attirer donc encore une fois une puissante substance vibratoire, mais ils ne peuvent pas offrir l'esprit. Et c'est ce que chaque individu doit comprendre lorsqu'il est sur le chemin et qu'il pratique une religion ou une ascèse quelconque. Il doit comprendre que ce qu'il pratique lui permet d'ajouter de l'énergie à sa vie, lui permet d'obtenir donc plus d'esprit combatif, puisqu'étant beaucoup plus vitalisé, il sera plus à même de devenir fort, que ce soit pour remporter ses épreuves ou tout simplement pour laisser tomber en lui tout ce qui doit périr. Mais qu'au bout du compte, ce qu'il doit découvrir, ce qu'il doit vraiment intégrer, cela n'appartiendra plus du tout au rituel qu'il fait, ou à la prière qu'il dit, ou à la méditation qu'il fait. Cela n'appartiendra qu'à sa puissance d'abandonner ce que l'on appelle l'ego inférieur. Et le drame dans la spiritualité d'aujourd'hui, c'est que la spiritualité, ou en tout cas les divers mouvements de la spiritualité, offrent des identités et des moyens d'identification. Je veux dire par là que aujourd'hui, les temples sont connus et sont ouverts à tout le monde. On peut devenir franc-maçon, On peut devenir ou rester catholique. On peut appartenir à d'autres écoles, les diverses écoles de la Rose-Croix, par exemple, ou même à d'autres institutions qui naissent spontanément de la part de certains auteurs que l'on ne connaît pas planétairement. Chacun peut se dire « j'appartiens à tel mouvement, j'appartiens à tel initiateur, j'appartiens à telle philosophie et je me reconnais dans cette philosophie, je me reconnais dans cette énergie, je me reconnais dans cette ascèse, ceci est moi et ceci est mon chemin. » Notre regard, et il ne se veut pas sévère lorsque je dis cela, notre regard qui contemple ce genre d'individu est un regard d'épouvante. Parce que l'on voit immédiatement un individu qui, au lieu d'avoir mis le pied sur la route de la spiritualité pour se libérer, met les deux pieds sur le chemin de l'identification pour mieux s'étouffer. Il n'y a aucune libération possible lorsque l'on s'identifie à une philosophie, à un rituel, à une église, à un prêtre, à un pape, et pape de n'importe quelle église ou n'importe quelle philosophie. Et il n'y a même aucune liberté possible si l'on s'identifie aussi à un dieu, à un gourou salvateur. Dès que l'homme met le pied dans la spiritualité, il transporte dans la spiritualité tout le phénomène des identifications qu'il connaît et qu'il vit dans le monde de la matière. Or, la spiritualité est l'endroit où le phénomène de l'identification, toutes les projections ne doivent plus avoir lieu. Tout simplement parce que sinon, ce n'est plus de la spiritualité. C'est de la rêverie collective, par exemple, ou c'est du fantasme collectif, ça sûrement. Mais ce n'est pas de la spiritualité, ce n'est pas de la purification, ce n'est pas de l'ascension. Celui qui veut véritablement travailler à son ascension, à la purification des éléments qui le constituent, pour n'en faire plus qu'un seul, qui soit simplement l'esprit dominant la matière, il faut que cet homme-là décide de ne plus jouer aucun jeu dans quelque groupe que ce soit. Et de ne plus jouer aucun jeu non plus vis-à-vis de lui-même. De ne plus se vêtir, par exemple, pour le désir de paraître. Comment décoder le plaisir de paraître ou le désir de paraître en soi? Parce que lorsque je soulève ce concept, les individus pourraient me dire « Oui, mais moi je m'habille bien parce que je ne veux insulter les yeux de personne, parce que je veux tout simplement respecter celui qui est en face de moi en lui offrant quelqu'un de propre et quelqu'un qui sait se tenir. » Bien sûr, j'admets tout à fait ce genre de comportement et je le favorise. Donc, comment décoder ou comment comprendre, trouver lorsque en soi, on s'habille de par le désir ou le plaisir de paraître? Eh bien, il y a une note très facile à entendre qui vous indiquera tout de suite si c'est par respect pour vous-même et pour les autres ou si c'est par désir de jouer une image. Tout simplement, dans votre esprit, il y aura à un moment donné une petite voix qui vous dira: non, si je mets ce pantalon-là ou si je mets cette robe-là, comme ce vêtement ne me va pas assez bien, j'aurai l'air cloche. Je n'aurai pas l'air à mon avantage. Je ne pourrai pas bien être vue. Donc, dès qu'il y a souci du regard de l'autre, automatiquement, vous pouvez déduire que votre intention de bien vous habiller n'est pas une intention pure qui veut que, par exemple, comme un prêtre, fasse un bel autel propre, impeccable, pour honorer son Dieu, le Dieu qui est à l'intérieur de lui-même et le Dieu qui est à l'intérieur des autres, qui vont venir à l'endroit de cet autel. Donc, dès que vous avez souci du jugement dans le regard de l'autre, sachez que ce n'est pas par amour pour vous-même, ni pour les autres que vous vous habillez, mais c'est par amour pour l'image que vous projetez de vous-même. Et si vous voulez faire une méditation extraordinaire, je ne vous conseille pas de réserver chaque jour à une même heure un moment pour la méditation. Je ne vous donne pour cela aucun nom de Dieu à répéter, aucune technique, aucun moyen de brûler l'encens ou de lever la bougie ou l'épée ou de s'asseoir avec les jambes derrière le dos ou sous les fesses. Je ne vous donne aucun moyen pourquoi ? Non pas que ces moyens soient inutiles, mais simplement ils restent morts tant que vous n'aurez pas pris soin de tuer cette image dont je parle. Ce qui fait que si vous voulez accomplir sans épée, sans encens, sans mantra, une méditation extraordinaire, eh bien faites-le à l'instant où vous vous habillez devant votre glace. Et dites-vous, est-ce que je m'habille pour Dieu ou est-ce que je m'habille pour mon image? Et faites un choix. Et vous verrez que si votre esprit s'habille pour Dieu, à l'instant où vous enfilerez la robe, à l'instant où vous mettrez le pantalon, automatiquement vous sentirez un état de conscience différent vivre en vous. Vous n'aurez pas simplement vécu comme vivent les fourmis, les papillons, les ours, les crocodiles et tous les autres hommes. À cet instant-là précis, vous êtes la divinité. Et cette divinité, pour partir dans le monde, s'apprête comme un bel autel. Cette divinité met un tissu propre, un tissu agréable à regarder. Cette divinité pose sur sa peau un parfum agréable, subtil, qui rappelle la danse des étoiles ou bien la chute des torrents sur la montagne. Et puis cette divinité embellit son regard. Et quand cette divinité est féminine, alors la femme ajoute un nuage de couleurs sur ses yeux ou un nuage de couleurs sur ses ongles. Si s'embellir est vécu pour ce prétexte-là et par ce prétexte-là, alors s'embellir est une belle chose. S'embellir devient un rituel, et c'est un rituel de troisième rayon, pour ceux qui connaissent ce langage. C'est-à-dire que c'est le rituel du Saint-Esprit, le rituel de la purification et de l'élévation de la matière. Pourquoi est-ce que tout le monde cherche à s'embellir ? Depuis le premier jour, chacun a essayé soit par des poudres, soit par des plumes, soit par des feuilles, puis plus tard avec différentes étoffes, avec différents parfums, chacun a essayé d'embellir la matière, d'être plus beau, plus agréable. Pourquoi ? Essayez de réfléchir à ce mouvement-là de la nature humaine et vous verrez que vous aurez chaque jour des occasions de mieux comprendre le mouvement de la divinité et son mouvement d'évolution, sans pour cela aller lire des livres compliqués d'occultisme ou d'ésotérisme. Réfléchissez aux mouvements naturels qui sont en vous et ils vous découvriront ce que vous êtes. Pourquoi est-ce que chacun depuis toujours essaye de s'embellir? On peut me rétorquer que c'est par souci de mieux paraître, c'est vrai, bien sûr. C'est la première raison, c'est la raison la plus profane et la plus physique, la plus terre-à-terre. Mais si cette raison profane, physique et terre-à-terre existe, c'est bien parce qu'il y a dans l'invisible un motif encore plus grand qui, sur le plan physique, à l'intérieur d'une conscience peu évoluée, ne peut s'exprimer que par le désir d'être beau ou d'être belle. Physiquement. Mais le grand motif invisible, quel est-il? Eh bien, ce grand motif invisible, qui est le motif de l'âme ou le mouvement de l'âme, c'est la purification. Et que dit l'âme ? L'âme qui a voulu et accepté son séjour dans la matière pour sa propre régénération. Cette âme-là a donc sur sa peau, à l'extérieur, une matière qui vient du monde. Et il ne faut pas oublier cela. Cette matière, elle vient du monde. Elle ne vient pas, par exemple, de l'univers. Elle ne vient pas de la sixième ou de la septième dimension du cosmos, où la matière, là, est très pure. La matière de l'homme vient du monde. L'homme est un enfant du monde, et aussi un enfant du ciel, mais aussi et avant tout un enfant du monde. Donc sa matière, ou du moins les éléments qui constituent sa matière, vont devoir être spiritualisés de nouveau, vont devoir être donc purifiés, extraits de la poussière du monde. Exactement comme on extrait un diamant de la roche, un rubis de la roche, ou le feu de la bûche. De la même matière, l'homme va devoir extraire l'esprit, son esprit, de sa matière. Et cela ne peut avoir lieu que par la purification. Purifier donc les éléments qui constituent l'homme. Ce désir de purification, ou plutôt ce mouvement de purification, c'est comme un code qui existe dans la mémoire de l'âme et qui s'articule depuis l'âme jusque dans l'être humain, dans la psychologie de l'homme et le désir de l'homme. Ce qui fait que pour un homme qui vit encore beaucoup de par les lois du monde profane, de par les lois du désir et du plaisir, eh bien cet homme-là va recevoir l'impact du motif de la purification qui vient de l'âme. L'homme va recevoir cet impact, mais l'interpréter du point de vue unique de la matière. C'est-à-dire qu'il y a dans l'invisible l'âme qui dit « purifie tes éléments pour en dégager le feu spirituel ». Et l'esprit concret de l'homme qui reçoit cette impulsion n'entend pas que le discours vient de l'âme et que l'âme essaye d'inspirer une spiritualité. Son esprit concret entend le désir et l'interprète au niveau de la vie physique, et l'homme naît un jour et il se dit « je dois être beau, je vais tout faire pour être beau ». Alors si je suis trop petit, je vais mettre des talons hauts. Si je suis trop grand, je n'imiterai pas les autres, je garderai les talons plats. J'essaierai d'avoir des vêtements qui cachent mon corps ou qui révèlent la beauté de mon corps. Je ferai en sorte que mes cheveux soient séduisants. Je composerai mon regard pour qu'il soit inoubliable et que les hommes le reçoivent droit dans le cœur, même si je ne m'amuse pas à aller avec tous les hommes. Mais j'essaierai d'être inoubliable pour tous ceux que je croiserai, même dans l'autobus. Et de la même manière, l'homme aussi se dit « je vais composer ma force, je vais composer un brillant pour que chaque femme me désire, même si je ne la consomme pas. » Et ainsi de suite, l'homme interprète l'impulsion de la beauté qui vient de l'âme en termes de beauté autour du corps. Et comme le corps, en prenant ce genre d'homme qui réagit de la sorte, et comme le corps est en fait un être de la nature, c'est-à-dire un animal, et quand je dis un animal, il ne faut pas imaginer cela avec une consonance péjorative. Je dis animal tout simplement pour exprimer que c'est un élément de la nature, élément natura. Le corps est donc un animal, soit un élément de la nature, qui, si il est vécu du point de vue de la matière et de la nature, aura des impulsions pour que cette nature en lui se perpétue. La loi de la nature est une chose et la loi de l'esprit est une autre chose, bien que les deux servent le même but. Cependant, il faut savoir que la Terre a mis au point un certain nombre de lois pour qu'elle puisse se perpétuer. C'est son rôle et c'est l'ordre qu'on lui a donné. Lorsque l'esprit a flotté au-dessus des eaux, comme il est dit dans la Bible, eh bien l'esprit a aussi distribué les ordres à la matière. Il a dit à la matière « Sois » et le monde fut, comme il est écrit. Mais il ne fallait pas que le monde soit de n'importe quelle manière et pendant n'importe quel temps. Il fallait qu'il y ait un ordre précis à cette matière pour que le but soit atteint, et il fallait que le temps soit indiqué pour que le but soit atteint. Donc, non seulement la matière a été programmée pour être ce qu'elle est aujourd'hui, mais elle a été aussi programmée pour l'être jusqu'à un certain temps. C'est ce que l'on appelle aussi les cycles. Les cycles planétaires, les cycles galactiques, les cycles cosmiques, imaginez ce que vous voulez. Mais il y a une horloge. Une horloge qui ordonne tout simplement les mouvements des différentes énergies qui doivent avoir lieu sur la Terre. Les sept énergies majeures et primordiales qui correspondent aux sept chakras de l'homme, aux sept plans de l'univers. Ces sept énergies doivent tour à tour venir initier l'homme individuel et l'homme planétaire qui est la somme de l'humanité. Et chacune à son tour, les sept énergies viennent et réveillent un chakra dans l'humanité. Ce qui fait que les hommes qui vivent en collectivité, c'est-à-dire les hommes qui n'avancent que parce que l'humanité avance et qui, en vivant de la sorte, bien sûr, éprouvent tous les malheurs du monde. Ils font partie de tous les malheurs du monde. Dès qu'il y a un tremblement de terre quelque part, on sait très bien qu'un tel homme, un homme collectif, donc, en mourra. Il va bien sûr vite se réincarner, mais dès qu'il sera réincarné, sitôt qu'il y a un raz-de-marée à tel endroit, il en mourra. Et il va de nouveau vite s'incarner, et dès qu'il y aura un orage quelque part ou un accident quelque part, il en mourra. C'est l'être collectif à l'intérieur duquel il évolue et duquel il n'arrive pas à s'extraire qui conduit alors son évolution, parce que tout simplement l'être collectif évolue avant lui. Mais en évoluant de la sorte, il faut comprendre que la cellule que représente l'individu, la cellule évolue un petit peu à retardement par rapport à l'être planétaire, mais évolue surtout par soumission et en subissant l'évolution du grand être collectif qu'est l'humanité. Ce qui fait que c'est comme si vous connaîtriez le nombre exact de cellules et d'atomes qui composent votre corps. Et puis, vous décidez d'être le messie de vos cellules. Vous décidez de faire descendre votre conscience à l'intérieur du plan de vie et d'entendement de vos cellules. Et vous vous compactez, vous vous densifiez, vous vous cristallisez pour pouvoir descendre et vous incarner en tant que petite cellule de lumière qui va voyager dans le corps entier, dans tous les organes, pour apporter la bonne parole, par exemple, et l'initiation. Et ainsi, vous circulez dans le foie, dans l'intestin, dans le sang, dans la peau, dans les cheveux, dans les yeux, partout. Et chaque fois, vous vous arrêtez et vous parlez aux cellules. Et vous leur dites, écoute, il y a à l'extérieur de ce monde-ci un être fabuleux, un être extraordinaire, qui est capable d'une expression sublime, qui a une puissance énorme, un amour énorme, un pouvoir énorme. Si tu essaies de faire sa volonté, si tu essaies de suivre son plan, automatiquement tu reçois son intelligence, son amour, son pouvoir. Et au lieu de te perpétuer en tant que petite cellule du foie ou petite cellule des cheveux, tu deviens l'initiateur des autres cellules du foie qui ne connaissent pas encore le grand architecte. Et puis un jour, tu arriveras à t'extraire de la localité de vie que représente le foie ou le cheveu. Et tu iras à l'endroit de la tête où il y a la couronne, où il y a donc le chakra coronal, la glande pinéale. Et là, tu vivras dans une intense joie, dans une intense éternité, dans un immense bonheur, parce que c'est à l'endroit où tu seras le plus près de ton Dieu. Et c'est la porte par laquelle ton Dieu lui-même viendra te reprendre du manifesté pour te loger en son sein d'éternité. C'est ce que vous diriez aux cellules de votre corps. Et comme par hasard, c'est ce que tous les sages vous ont dit. C'est ce que Jésus vous a dit il n'y a pas si longtemps. Et c'est ce que d'autres sages et d'autres illuminés vous diront encore pour ceux qui n'auront en tout cas pas compris ou pas entendu. C'est exactement la même image, c'est exactement le même travail qui a lieu, selon le même schéma. Donc, quand vous essayez de prendre conscience de ce qu'est Dieu, de ce qu'est votre divinité, de ce que peut être l'éternité, de ce que peut être l'amour absolu, il faudrait que vous essayiez de comprendre que vous êtes localisé à l'intérieur d'un grand être. En étant localisé à l'intérieur de ce grand être, vous pouvez faire soit la volonté du grand être et faire simplement votre travail, c'est-à-dire si vous êtes une des cellules du foie, vous pouvez faire votre travail comme il faut, en purifiant bien toutes les énergies qui entrent dans le corps du grand être qu'est l'humanité. Si vous faites partie des cellules qui composent l'activité cérébrale, donc le cerveau, eh bien, vous pouvez vous dire, je vais faire désormais encore mieux mon travail. Et ainsi, si vous êtes un scientifique, vous pouvez décider d'être le meilleur des scientifiques, non pas parce que vous allez résoudre toutes les énigmes, mais parce que vous allez accomplir votre travail comme un véritable service. De la même manière, tous ceux qui sont par exemple des exorcistes ou des purificateurs de l'humanité peuvent se dire, eh bien désormais je serai, grâce à mon engagement total, un meilleur exorciste, un meilleur purificateur de l'humanité, que ce soit au niveau de son aura ou au niveau de son esprit. Et ainsi on s'aperçoit que chaque famille de cellules, même si ces cellules sont dispersées dans le corps de l'humanité, donc si ces cellules ne sont pas localisées aussi avec autant d'évidence et aussi physiquement que par exemple les cellules de votre propre foie ou de votre propre cerveau, eh bien on s'aperçoit que même donc si ces cellules ne sont pas localisées, elles ont chacune leur travail. Et chacune accomplit son service. Alors il y a des cellules qui n'accomplissent pas un travail avec la notion d'amour, la notion de service, la notion de participer à un grand mouvement qui est l'expression de la vie du grand être. Et on pourrait appeler cela la cellule cancéreuse. De la même manière, dans votre corps, dès qu'il y a une cellule qui ne fait pas son travail, qui ne veut pas s'aligner, qui ne veut pas être ce qu'elle doit être, ce qu'il est attendu d'elle qu'elle soit et qu'elle fasse, Elle devient marginale, elle colle sur son visage n'importe quel masque, et à partir du moment où ce n'est pas le masque divin, c'est forcément le masque des ténèbres, un masque hideux, et elle devient une cellule cancéreuse, une cellule qui apporte donc les ténèbres dans le corps et qui entraîne la mort. Dans le corps du grand être qui est l'humanité et que nous appellerons Logos. Dans le corps du grand être, il y a de la même manière des cellules qui, parce qu'elles sont trop endormies, encore trop dans le mirage de la matière, mais un mirage soporifique, parce qu'elles sont donc encore trop endormies, n'acceptent pas d'accomplir leur œuvre, n'acceptent pas de s'aligner pour recevoir l'ordre et fonctionner. Automatiquement, ces êtres-là, ces individus-là, deviennent des cellules cancéreuses dans le corps du Logos. Et que se passe-t-il? Eh bien, le Logos devient malade. Le Logos commence à se gratter à droite, à gauche. Il se dit, mais ce n'est pas possible, j'ai de l'eczéma. Et l'homme, qui est en fait une cellule de ce grand être, l'homme se dit, mais pourquoi est-ce que ça va mal sur la terre? Pourquoi est-ce qu'il y a eu du remue-ménage à droite, une révolution à gauche, une mauvaise politique là-bas, une rébellion dans un tel pays, un ouragan dans tel autre pays, une épidémie dans tel autre pays? Lorsque la terre est malade, il faut comprendre que c'est l'homme qui est malade et qu'en étant lui-même malade, il crée la maladie chez le grand homme qu'il compose. Donc, il crée la maladie chez le grand être qui est la somme de l'humanité. Et c'est pour cela que, à un moment donné, tout ce qui est envoyé vers le ciel redescend sur la terre. Tout ce qui est envoyé vers le grand être redescend dans la matière. C'est donc un cercle fermé. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, eh bien, de nombreuses maladies semblent accabler l'humanité, semblent accabler les cellules. Les hommes sont les cellules du grand homme. Il ne faut pas oublier cela. Si vous voulez comprendre ce qui vous arrive, comprenez une bonne fois pour toutes que vous êtes les cellules du grand homme, qui est l'humanité. Et ce grand homme, qui est l'humanité, est lui-même un Dieu qui est un être, un Christ qui va naître du ventre de la terre. Et chaque homme qui est vivant sur la terre est une de ces cellules. Et lorsque chaque cellule aura compris cela, alors chaque cellule s'alignera avec ce qu'elle est déjà en essence. Et en prenant conscience de cette essence, elle dépassera le fait d'être une simple cellule. Son action sera tout simplement le travail qui est demandé à la cellule. Tandis que la cellule aura complètement basculé dans la conscience christique. Ce qui fait qu'il n'y aura plus pour cet homme-là, il n'y aura plus pour lui le moyen de se dire « Je suis Pierre et je sers Dieu. Je suis Jacques et j'ai la foi, donc je sers Dieu. » Non, il y aura tout simplement un homme qui ne sait plus qu'il est un homme. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est la divinité. Il sait qu'il est le Christ. Et sur un plan manifesté, il accomplit un travail à un moment donné grâce à une incarnation. Car c'est ce travail-là qui lui permettra d'aller plus loin, non seulement dans l'état de Christ, mais aussi plus loin dans la purification des autres cellules qui ne savent pas encore quelles sont la substance cosmique christique. Donc, quand un homme essaye de trouver sa place dans la spiritualité, quand un homme essaye de savoir à quelle initiation il en est, à quel groupe il devrait s'affilier, vers quelle énergie il devrait aller, vers quel gourou il devrait aller. Vous comprenez bien maintenant que toutes ces petites interrogations ne sont que fétu de paille, illusion, perte de temps, mirage. Tu as déjà tout en toi. Pas simplement parce que tu es Dieu et que je te le dis et que d'autres te l'ont dit. Mais simplement parce qu'il y a en toi tous les outils. Tu es né avec tous les outils autour du cou. Et que tu penses aux outils tels que le compas, le marteau et l'équerre. Ou que tu penses à d'autres outils parce que tu appartiens à une autre école et que tu me dises mantra, méditation, yoga. Tu es né avec ces outils. Il suffit simplement que tu arrives à ne plus t'identifier à un quelconque mouvement. Et automatiquement, les outils qui sont les tiens vont apparaître. Tu n'auras pas besoin d'aller les chercher, d'aller les prendre à l'extérieur. Les outils vont apparaître à l'intérieur de toi. Et automatiquement, tu verras que le plus beau des compas dont tu disposes, c'est ton intelligence. Alors que fais-tu à l'intérieur de certains groupes qui ont entre la main encore un compas physique? Prends le compas de l'esprit une bonne fois pour toutes. Que fais-tu dans ces groupes qui ont encore à la main un marteau physique? Prends une bonne fois pour toutes ta propre force entre les mains. Arrête de t'identifier à tout ce que tu vois dehors. Arrête de chercher le sens à propos des choses que tu vois. Et on te donne des symboles et tu passes tout ton temps et tu utilises toute ton énergie à réfléchir sur le sens de ces symboles, alors que tu devrais réfléchir à l'intérieur de toi-même, à propos des symboles qui sont en toi. Mais tu réfléchis à l'extérieur de toi dans un mouvement d'extériorisation parce que tu as commis la faute de t'identifier. S'identifier implique tout de suite que l'on se sépare de la divinité. Tout phénomène d'identification propulse l'homme dans la séparativité. C'est ce qui fait donc chuter l'homme idéal du jardin d'Éden, du paradis. Dans ce paradis, il n'y avait aucun moyen d'identification, parce que tout simplement, l'âme était dans une contemplation à propos d'elle-même et sur elle-même. Puis le manifesté est apparu comme un autre jardin, comme un autre territoire. Celui où l'on allait pouvoir prendre les choses en main. Celui où l'on allait pouvoir regarder. Et qui dit regarder, dit que la contemplation s'est arrêtée. Si je regarde ce qui est dehors, je ne contemple plus ce qui est dedans. Immédiatement, je me sépare, je crée le bien et le mal. Le noir et le blanc. Le diable et le bon Dieu. Le maître et le disciple, l'ignorance et la connaissance. Donc, quand vous envoyez au ciel toutes vos réclamations, quel que soit le groupe auquel vous appartenez, la philosophie sur laquelle vous vous appuyez, et quand vous envoyez toutes vos réclamations au ciel en disant « Montre-nous le chemin », tu dis que l'homme doit se sortir de la matière. Très bien, grand frère. Eh bien, alors, descends et montre-nous comment on fait. Sois là pour nous initier. lorsque vous nous lancez de tels défis, nous avons envie de vous dire, mais nous sommes déjà là, en toi, dans l'unité de ton être. Nous sommes tous là, dans un collège unique et parfaitement uni, parfaitement révélé, accessible. Nous sommes tous là, debout, en toi. Et ceci non pas parce que nous devons agir de la sorte, non pas parce que cela est la loi ou que cela est ta nature. Cela est ainsi parce qu'il n'y a pas d'autre existence. Cela est ainsi parce que l'existence qui est en toi est la même que celle qui est en moi. Et qu'à partir du moment où nous nous mettons ensemble dans cette existence qui est la même, nous nous rencontrons. C'est un peu, vois-tu, comme lorsque des hommes très éparpillés sur la surface de la Terre se téléphonent les uns aux autres en imaginant qu'ils puissent tous se réunir et se parler parce qu'ils vont à la rencontre sur un standard unique. Ce standard unique est construit